Bonjour à chacun. On va régler la sono. Hein? Quelle grâce de pouvoir écouter ou de chanter de si beaux cantiques. Nous allons passer 3 jours ensemble, 3 jours sous le regard du Seigneur, 3 jours à réfléchir, à étudier, à méditer. 3 jours peut-être à changer. Est-ce qu'il y a parmi vous des jeunes qui aimeraient changer? Est-ce qu'il y a des jeunes qui aimeraient faire des progrès? Ah, déjà, c'est vrai. Dieu voit quand vous levez la main. Et il va travailler pour ça, le Seigneur. Il va le faire en fonction de votre personnalité. C'est un sujet qui me préoccupe d'autant plus que c'est au travers de ce biais-là que Dieu peut nous utiliser. On a chanté un cantique, Majesté, à savoir que nous sommes transformés en contemplant le Seigneur. On n'est pas transformés en servant Dieu. En servant Dieu, certains s'éloignent de Dieu. On est transformés en contemplant Dieu. C'est pour ça que ces cantiques ont d'autant plus de valeur. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on est transformé de gloire en gloire en contemplant le Seigneur? Oui, c'est écrit. Dans les Corinthiens, c'est stipulé. Et voyez, beaucoup de croyants ont abandonné Dieu pour la simple et unique raison qu'ils se sont appliqués à servir Dieu, mais ils ne se sont pas appliqués à le connaître d'une manière personnelle. Ce qui fait que tout le monde est perdant dans l'affaire. Comment concevez-vous la volonté de Dieu? Je vais vous poser des questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Si quelqu'un veut s'hasarder à le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire d'une manière très objective, répondre à haute voix, après tout, on peut le faire. Mais je tiens à ce que quand même vous répondiez à l'intérieur de vous à la question. Comment concevez-vous la volonté de Dieu? Vous pouvez utiliser un verset pour me répondre et dire, mais pour moi je sais que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Voilà, vous pouvez résumer la volonté de Dieu à quelques versets bibliques qui concernent ce sujet. Ce n'est pas parce que on résume la volonté de Dieu à un schéma que l'on est au point sur la volonté de Dieu. Pourquoi êtes-vous ici? Quel est le but de Dieu pour vous? C'est en posant des questions qu'on peut arriver à se situer un petit peu. Pourquoi je suis là ce week-end? Qu'est-ce que c'est qui est intéressant pour moi dans ma marche avec Dieu? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Pourquoi je prie? Quel est mon but à moi? Est-ce que mon but à moi, c'est le confort? Est-ce que vous aimez le confort? Est-ce que c'est bien d'aimer le confort?
Ben oui, c'est bien.
Le bien-être? Est-ce que c'est bien le bien-être? La facilité? Est-ce que Dieu peut nous rendre la vie plus facile? Est-ce que c'est possible?
Ben oui.
Est-ce que Dieu peut nous faire prospérer matériellement? Est-ce que vous avez déjà prié dans ce sens? Non, jamais. Est-ce que Dieu peut faire prospérer un chrétien? Hier soir, j'ai conclu avec l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu lui dit, voilà, puisque tu as obéi, je te bénirai. Dites-moi, est-ce qu'Abraham avait été béni avant?
Oui.
Moi, je trouve qu'il était un peu béni. Mais il ne parle pas de bénédiction matérielle. Il parle de bénédiction spirituelle. Et pourtant, il avait déjà été béni spirituellement. C'est pour ça que quand on lit un texte, on peut dire, ah, il va être béni. Ah, il a déjà des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de chameaux. Ah, il va en avoir encore. Mais ce n'est pas ça, la bénédiction. Tant mieux. La Bible dit que Dieu peut nous combler de toutes sortes de biens afin que nous en jouissions. Si ça ne vous empêche pas de servir Dieu, Dieu sait qu'il peut vous l'accorder. Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu parce que vous savez ces choses? Il y a des chrétiens, quand on les écoute prier, et attention de pas aller trop vite dans le jugement des prières, parce que je crois qu'on n'est pas autorisé à ça, même le plus spirituel d'entre nous. Mais pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je le suis devenu? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'aller en enfer? Tiens, est-ce que c'est une raison valable pour devenir chrétien? Ah, je vais vous ennuyer avec mes questions, je peux vous le dire. Mais peut-être ça va vous faire réfléchir à certains. Celui qui n'est pas sauvé, il peut réfléchir quand même au fait d'éviter l'enfer. Ça peut vraiment l'aider. Mais vous, les chrétiens, est-ce que vous êtes convertis que pour éviter l'enfer? Vous allez me dire que c'est déjà pas mal. Moi, si on me disait en rentrant à Toulouse, il y a 2000 Toulousains qui se sont convertis pour éviter l'enfer, je vous assure que ça me plaira. Mais ce n'est pas que ça, la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens, ils sont focalisés sur ça, le confort, le bien-être, les intérêts personnels, et surtout ne pas aller en enfer. Et il y a du vrai dans tout ça. Et une partie de la conversion doit être justement vécue dans ce sens. Mais je dis ces choses pour nous aider, ce n'est pas du tout pour jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Mais écoutez les prières. Ce matin, non, j'ai entendu des prières qui étaient spirituelles. C'est bien. Mais combien de croyants, même dans le cadre des cultes, prient et demandent à Dieu des choses pour eux. Pour la santé. Et on peut demander la santé. Est-ce que c'est bien d'être en bonne santé? Oui. Est-ce que Dieu peut nous rendre malades pour qu'on comprenne certaines choses? Oui, et bien la maladie sera une grande bénédiction. Vous voyez? Après. L'épreuve, c'est bien après. Ouais. Que de prières, protège-moi. Fais-moi grâce, bénis-moi, dirige-moi, donne-moi ta sécurité. Et c'est vrai qu'on a plein de cantiques qui sont cohérents et qui expriment ce que nous connaissons de Dieu, mon abri, mon réconfort, etc. Tout ça sont des choses importantes. Mais est-ce que Dieu veut pas davantage pour nous? Oui. Dieu veut ces choses. Et je crois que c'est beau de les vivre. Mais il veut plus. Si la vie d'un chrétien est cantonnée à ce que je viens d'énumérer, il passe à côté de quelque chose. Tout en étant béni, c'est ce qui arrive presque à la majorité de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Ils restent cantonnés dans ce cadre-là. Et puis il y a ceux qui ont le souci d'avoir accepté Jésus comme sauveur et en plus comme Seigneur, dont là ils sont intéressés pour comprendre et pour vivre la volonté de Dieu. C'est certainement la raison pour laquelle plusieurs vous êtes ici. Dieu va permettre l'adversité, il faut. On va lire un verset qui nous servira de base tout le long de ce séminaire. Il faut l'épreuve. Il faut l'épreuve, il y a des impératifs, c'est sûr que ça ne plaît pas toujours, mais il le faut. Dans 1 Pierre au chapitre 1er, au verset 6, c'est un verset qui nous explique que nous pouvons être attristés, dont la preuve que les épreuves nous attristent. Et même s'il faut les considérer avec une certaine joie pour le but qu'elles vont provoquer, l'apôtre explique qu'il faut être éprouvé. Et les gens qui sont dans l'épreuve, ils remettent tout en question. Ce qui est bien la preuve qu'ils n'ont pas saisi, certaines choses. 1 Pierre chapitre 1er, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut. Vous aimez ces mots, c'est moi, il le faut. Vous aimez ça? Vous pouvez quand même me répondre de temps en temps. Hein? Même si je vous ai dit de répondre dedans, vous pouvez me répondre dehors. Il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat. Alors là, le résultat, c'est quand même, c'est quelque chose. La louange, la gloire et l'honneur, pas pour Jésus, pour vous, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous voyez que ce que certaines épreuves peuvent avoir pour résultat, ça fait quand même réfléchir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il faut comprendre quel est l'objectif de Dieu. Vous savez, je suis pasteur depuis 28 ans. Et dans mes entretiens, et j'en ai beaucoup, dans mes entretiens, je vois que beaucoup de chrétiens, c'est peut-être pas leur faute, c'est peut-être notre faute à nous. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas la volonté de Dieu. Quel est l'objectif de Dieu? On va lire trois versets pour que vous compreniez quel est l'objectif de Dieu. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Ce sont des textes que vous devez comprendre. Vous avez remarqué, il est écrit plusieurs fois, « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance ». Il y a des chrétiens, ils sont dans l'ignorance et ils sont pénalisés à cause de cette ignorance. Eux, ils sont intéressés par la bénédiction, mais la compréhension de la volonté de Dieu ne les préoccupe pas. Éphésiens 1, 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est l'introduction que j'ai faite en fin de compte. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors pourquoi ? Voyez, pour verset 3, la bénédiction, verset 4, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Est-ce que vous êtes intéressé par la sainteté et est-ce que vous êtes intéressé par le fait de faire des progrès de telle sorte que vous serez irréprochable? Irréprochable, ce n'est pas infaillible, l'infaillibilité n'existe pas, pas en France en tous les cas, ni à Rome en vérité, parce que ça n'existe pas. L'infaillibilité, ça n'existe pas. L'irréprochabilité, oui. Dans le sens où je commets une erreur, je la répare. Quand la Bible dit, il faut que les hommes qui sont appelés pour le service soient irréprochables. Irréprochable, c'est ça. Je commets une erreur, je la répare. On peut dire de la personne qu'elle est à ce moment-là irréprochable. Donc, Dieu nous a bénis, c'est ce que j'ai introduit, mais le but de Dieu, c'est pour que nous soyons saints et irréprochables. Colossiens chapitre 1er, un autre but. C'est comme ça qu'on arrivera à comprendre l'adversité, sinon c'est pas possible. Si je vous parle d'adversité pour vous parler d'adversité, vous allez être peut-être touché par les témoignages de ces hommes de Dieu, mais vous n'en ressortirez rien quand même. Il faut comprendre pour vous. Colossiens 1:21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, verset 22, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, etc. Voilà, paraître devant lui, un jour vous comparaîtrez devant Dieu. Vous y pensez des fois? Est-ce que vous y pensez à ce jour où vous comparaîtrez devant Dieu seul? Tous, il faudra comparaître devant le Seigneur Jésus-Christ. Ça serait bien que ça se passe bien. Hein? Et voilà, et qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut que nous soyons prêts, saints. Vous voyez, Dieu est intéressé par vos progrès spirituels. Est-ce que vous êtes intéressé? Peut-être non, vous dites, non, moi, ce que vous avez dit au début, ça me va. Le confort, le bien-être, la protection, moi, ça me va. C'est bien, mais ça ne va pas à Dieu. Dieu, il veut en plus vous changer pour que vous soyez celui qu'il veut que vous soyez. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Je disais hier soir que je vous encourage à noter les textes que je vais vous citer, même si l'enregistrement se fait et que vous pourrez avoir le MP3, il n'empêche que vous pouvez noter les textes et les méditer dans vos cultes personnels, ça vous aidera beaucoup. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être, allez bien, je l'ai souligné moi, semblables à l'image de son Fils. Voilà le but de Dieu, que vous ressembliez de plus en plus au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est votre préoccupation? Dites-moi, répondez vraiment. Est-ce que le but de votre vie, c'est de ressembler, tout en étant vous-même, avec votre personnalité, avec votre caractère, etc. Car Dieu ne nous arrache pas notre personnalité quand on se convertit, bien au contraire, il la peaufine. Est-ce que vraiment, vous voulez devenir de plus en plus et de mieux en mieux semblable au Seigneur? C'est le but de Dieu. Et je vous assure que beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Allez, répondez-vous. Répondez-le. S'il y en a deux ou trois qui veulent lever leur voix, ça va m'aider. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Au niveau spirituel? Qu'est-ce qui vous préoccupe? De trouver une femme pour faire un foyer chrétien formidable? Est-ce que ça peut préoccuper quelqu'un, ça? Est-ce que c'est normal qu'un homme veuille une femme? Il faut bien dire les choses quand même. Qu'un homme veuille une femme, qu'une femme veuille un homme. Est-ce que c'est bien? Bien sûr. Mais s'il n'y a que ça qui vous préoccupe, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vient de lire. Alors est-ce qu'il faut essayer d'imiter le Christ? Alors là, on va écoutez bien, parce que quand même c'est sérieux, c'est l'introduction, mais c'est quand même sérieux. Est-ce qu'il faut essayer d'imiter le Christ? Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui, par leur comportement, donnent l'exemple à certains chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Vous n'avez jamais été étonné par le comportement de certains chrétiens qui, au niveau de la moralité, un témoignage remarquable. J'ai invité un couple d'amis, parce que j'ai perdu un ami. J'ai perdu un ami il y a un mois et demi. Vraiment, c'était un ami. Et son fils est kinésithérapeute, il cherche du boulot. Et j'ai un ami qui dirige un cabinet de kinésithérapie, il n'est pas encore chrétien. Je l'ai invité avec sa femme pour leur présenter, comme ça il va pouvoir l'embaucher. Ils ont rendu un témoignage excellent. Excellent. Et ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Mais c'est pas formidable? Parce qu'ils vont le devenir. À mon contact. Comment on pourrait dire? Bon. Ça, c'est pas inspiré. Ça, c'est pour vous détendre un peu. Et il y a des gens donc, qui rendent un témoignage extraordinaire, je vois comme ça si vous écoutez, mais ils ne mettent pas leur foi en Christ. Ils ne mettent pas leur foi en Christ. La vie du Seigneur Jésus ne coule pas en eux. Et pourtant, on le voit dans la religion. Des fois, on a tendance à comparer les religions, ça, bon, c'est pas toujours fin, mais il y a quand même, dans des personnes qui ne sont pas encore converties, des gens qui cherchent à imiter le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça part certainement d'une très bonne intention, il n'y a rien à dire. Et par ce comportement-là, on peut apprendre à faire tout un tas de bonnes choses. D'accord ? Et nous pouvons, nous-mêmes, en tant qu'évangéliques, pentecôtistes, qui avons quand même une plus grande révélation de la parole de Dieu que ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est évident, nous prions. Mais pourquoi nous prions ? J'y reviens, est-ce qu'on prie ? Parce qu'on sait très bien que de toute façon, c'est une injonction de Dieu et que passer à côté risquerait de nous pénaliser, risquerait de faire qu'on n'obtiendrait pas certaines choses. Pourquoi nous lisons la Bible ? Pourquoi nous lisons la Bible ? Pour connaître l'histoire de David et de Goliath. Est-ce que c'est bien de connaître l'histoire de David et de Goliath ? Ben oui, c'est bien. Mais pourquoi on la lit ? Vous arrivez à vous répondre au fur et à mesure que je pose des questions ? Est-ce que vous répondez ? Bon, c'est bien. Hein ? Pourquoi vous lisez la Bible ? Pourquoi vous l'avez ? Parce que des fois, on cherche une consolation. C'est pas vrai ? Est-ce que ça vous arrive, des fois, d'avoir une besoin d'une consolation ? J'espère que vous n'êtes pas devenu insensible à ce point-là. Vous avez peut-être besoin d'une direction, j'ai besoin d'un verset qui va m'aider dans la direction de ma vie. Mais j'espère que ce n'est pas que pour ça. Nous aimons les gens. Pourquoi nous aimons les gens ? Je sais, il va y en avoir des questions. Pourquoi nous aimons les gens ? Pardon ? Alors, là vous avez tous répondu. Pourquoi nous aimons les gens ? Pourquoi nous essayons de forcer d'aimer les gens ? Parce que la Bible nous exhorte à aimer les gens. On sait que c'est quelque chose d'incontournable, que celui qui aime... Enfin, on connaît tous les textes sur l'amour en Corinthiens 13. Enfin, tout ce qui est fait sans amour, ça sert à rien. Donc, mais on peut chercher à aimer les gens justement pour obéir à Dieu et dire « Bon, je dois être spirituel, je m'efforce d'aimer les gens, donc je suis spirituel. Je vais imiter les gens qui aiment Dieu, ils rendent mon témoignage. » Mais est-ce que c'est pour ça que Christ va vivre vraiment en moi ? Pourquoi allons-nous à l'église ? Pourquoi je vais à l'église ? Je vous ennuie avec mes questions ? Est-ce que c'est pas bien de les poser quand même ? Pourquoi je vais à l'église ? Est-ce que je vais à l'église parce que vraiment j'aime chanter ? Parce que j'aime la communion fraternelle ? Est-ce que c'est bien de chanter ? Est-ce que c'est biblique de chanter de tout son cœur ? Est-ce que c'est écrit ? Ben oui. Est-ce que c'est bien de voir les frères et les sœurs, de retrouver les frères et les sœurs dans la communion fraternelle ? Mais c'est super. Il y a un grand bienfait. Pourquoi nous donnons la dîme ? J'ai bientôt fini. Pourquoi nous donnons la dîme ? Toutes ces choses, il faut les faire. Tout ce que je viens de dire, est-ce qu'il faut le faire ? Oui ? Bon. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a beaucoup interpellé. Je ne sors pas du sujet. Je vous prépare à comprendre vraiment l'adversité. Dans Luc 18, il y a une histoire où on voit un homme qui fait tout ce que je suis en train de vous décrire, au travers de mes questions. On y va ? Luc 18. Dans Luc 18, le Seigneur Jésus va donner une parabole et il va comparer deux hommes qui sont dans le temple. C'était bien, ils étaient là où on veut que les hommes soient. Tous les pasteurs veulent que les croyants soient dans le temple. Ils sont dans le temple et il y en a un qui prie. Regardez bien. Parce que vous pouvez éviter de l'adversité en lisant, en comprenant ce qu'on va lire. Vous avez lu cette histoire certainement bien des fois, ça fait partie des évangiles. Luc 18, 9, il dit encore cette parabole en vue, regardez bien, de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Est-ce que vous me suivez ? C'est une parabole pour que nous comprenions certaines choses par rapport à des croyants qui font des choses pour se persuader qu'elles sont justes. Donc, elles obéissent à Dieu. Mais en vérité, il y a un problème. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce que c'est biblique de donner sa dîme? Est-ce que c'est biblique de jeûner? Est-ce que c'est sa Bible de prier? Est-ce que c'est biblique de prier, de se comparer? Non. Est-ce que c'est biblique d'aller dans l'église, d'élever la voix? Il fait tout ce qu'on demande aux gens de faire, tout ce que Dieu demande aux gens de faire. On le voit quand Dieu reprend les pharisiens, il leur dit, mais vous négligez ce qui est le plus important, la justice. Vous donnez la dîme, de la menthe, de l'anise, du cumin. C'est pas bien ça. T'as vu le pasteur? Il donne la dîme de la ciboulette, de la menthe, du persil. Quel exemple! Quel chrétien! Tu te rends compte? Il calcule avec le mètre, 80 cm de menthe dans le jardin, 8 cm. Ça, c'est un chrétien. Et vous négligez ce qui est le plus important, la justice. Mais qu'est-ce que c'est la justice? Si vous n'avez pas compris ce qu'est la justice, on le chante. Et c'est bien qu'on chante des centaines de fois. Il y a des chrétiens qui ont chanté 2000 fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ils l'ont chanté 2000 fois. Et quand vous leur posez la question, qu'est-ce que c'est chercher la justice? Ils vous regardent. Et ils ne comprennent rien. Et ils l'ont chanté des centaines de fois. C'est pour vous expliquer pourquoi Dieu va être obligé de permettre certaines choses pour que nous apprenions. Cette parabole, elle est là pour nous enseigner que c'est bien de faire certaines choses, mais ce n'est pas parce qu'on prie, parce qu'on jeûne, qu'on donne la dîme, qu'on va au temple et qu'on loue et qu'on fait tout, qu'on fait des progrès avec Dieu. Vous me suivez? La justice, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui pratique la justice est un homme qui est heureux. J'ai fait toute une étude sur la justice parce que j'ai été arrêté un jour par un verset d'Ésaïe 64 où il est dit « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice ». On peut tout faire sans obéir à Dieu. Vous avez un texte comme ça, vous en avez des dizaines dans la Bible où Dieu dit « Mais non, mais je ne veux même pas que vous chantiez, je ne veux pas que vous offriez des sacrifices, je ne veux plus que vous offriez de l'encens, mais que la justice coule. » La justice, c'est quand on vit ce que l'on fait. Il n'y a que Dieu qui sait comment on fait les choses. Là, ce matin, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu? Est-ce que je suis en train de prêcher? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous pouvez dire « Mais il prêche, donc il obéit ». Il prêche, donc c'est un pasteur. Bon pasteur. Est-ce que parce que je prêche, vous pouvez dire cet homme, il obéit à Dieu? D'accord avec moi? Est-ce que vous êtes sûr que j'obéis à Dieu? Pourtant, je suis en train dans les conditions requises. Le week-end Pentecôte, payé au double. Vous vous rendez compte? Je suis là. J'espère que monsieur s'est entendu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que parce que quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, il est en train de faire des progrès avec Dieu? Pas forcément. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'adversité? Vous allez comprendre. Ce texte, c'est des textes que vous devez apprendre à méditer. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai, à part peut-être d'autres textes, pour vous montrer que la justice, ce que je fais, je le vis. Et parce que je le vis, il y a une espèce de cohésion avec Dieu, une véritable communion avec Dieu. Vous le savez, on peut faire tout un tas de choses sans obéir à Dieu. Et Dieu, qui le sait, va déterminer et préparer les circonstances pour changer les choses. Et ce n'est pas parce que je fais des choses, comme ce gars dans le temple qui se la jouait vraiment, en plus il part, il se permet de se comparer à quelqu'un, il ne prie pas pour moi, il parle de lui. Ce n'est pas parce que nous faisons plein de choses pour Dieu que nous ressemblons de plus en plus au Seigneur, car je vous rappelle que le but, c'est ça, c'est de ressembler au Seigneur, tout en étant soi-même. Ne jouons pas la comédie, ne jouons pas les spirituels en essayant de jouer un rôle. Il n'y a rien de pire que de ne pas être soi-même. Là aussi, Dieu permettra l'adversité pour corriger les choses. On ne se sert pas de Dieu. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est pour ça que hier j'ai fait une introduction sur le fait que Dieu règne. Ce n'est pas lui qui nous obéit. Il n'est le débiteur de personne. C'est nous qu'on lui doit tout. Et ça, il faut peut-être le comprendre. On lui demande de s'occuper de nous et on a raison. On peut faire plein de choses sans changer. Et je vous rappelle que Dieu veut que nous changions. Est-ce que vous demandez au Seigneur de temps en temps, Seigneur, que ta volonté soit faite? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce matin, quelqu'un dans sa prière a prié, Seigneur, brise-moi. Moi, j'ai fait cette prière un jour. Je me suis retrouvé à l'hôpital 3 jours après. J'avais pas pigé. Vous savez? J'avais pas compris. C'est comme un gars qui arrive dans un club de boxe, qui a lu 2 ou 3 livres sur la boxe. Oh, il a la coupe. Oh, c'est joli, j'aimerais un jour. Il arrive dans un club de boxe, il dit, enseignez-moi la boxe, s'il vous plaît. Pose tes livres. Et monte sur le ring, et on va commencer à prendre la boxe. Mais c'est ça. Vous n'allez pas devenir boxeur en lisant tous les témoignages des grands boxeurs. Vous deviendrez boxeur en apprenant ce que sont les uppercuts. Un uppercut, c'est un coup de poing sous le menton qui a le pouvoir de vous déplacer dans l'atmosphère et de vous allonger quelque temps à vous demander où vous êtes vraiment. Bon, mis à part cette image, mais c'est quand même une bonne, parce que Dieu sait quand même ce que vous pouvez supporter. On y reviendra. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu veut et Dieu va faire certaines choses pour que nous soyons changés? Dieu sait. Vous ne le savez pas, vous. Le problème, il est là. C'est que vous ne savez pas ce que vous pouvez devenir avec le Seigneur. Mais Dieu, il le sait. Je disais hier, quand Dieu a arrêté Saul de Tarse, qui respirait le meurtre et la menace, il savait ce qu'il allait faire avec cet homme. Personne n'aurait, entre guillemets, parié sur lui. Il persécutait l'Église de surcroît. Mais Dieu savait le potentiel qu'il y avait dans le cœur de l'apôtre Paul. Il sait ce qu'il y a en vous. Même si vous êtes déjà radicalement mis de côté, Dieu, lui, il sait ce qu'il va pouvoir faire pour vous remettre sur les rails. C'est pour ça que le mieux, c'est de s'y remettre de suite, avant qu'il vous y amène d'une manière que peut-être que vous ne souhaiteriez pas. Est-ce que vous permettez à Dieu qu'il vous secoue? Est-ce que Dieu a secoué Jonas? Est-ce que Dieu sait comment secouer les gens? Vous avez vu? Et dans le ventre du grand poisson, Jonas se remet à prier. Je me suis souvenu de l'Éternel. C'est drôle, comment des fois, pour qu'on se souvienne de Dieu, il faut être un petit peu claustro, quoi. Voyez? Mais est-ce que Dieu avait raison? Est-ce que c'est bien l'histoire de Jonas? C'est bien pour lui? C'est bien pour les autres, l'adversité. Le problème, c'est que Dieu nous demande de nous réjouir de nos épreuves, et surtout pas de celles des autres, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour se tromper. Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un dans l'épreuve et de dire « Ah ouais, mais... s'il est dans l'épreuve, peut-être sa faute. » Est-ce que vous croyez que... Moi, je crois que quand quelqu'un est dans l'épreuve, il est en train d'être béni par Dieu. S'il accepte pas. Donc, le top niveau de l'expérience chrétienne, là, c'est la conclusion du séminaire. Le top niveau, c'est Galates 2:20. C'est peut-être pas quelque chose que vous comprenez bien aujourd'hui. Ça, c'est pas forcément. Mais c'est bien de le dire parce que comme je sais par le séminaire que comme c'est enregistré, ça sera diffusé partout sur des radios chrétiennes et tout. Et je sais que ça correspondra à certaines personnes qui ne sont pas ici, cet enseignement. Des personnes qui sont avancées dans la piété et qui veulent comprendre jusqu'où va la formation spirituelle. Voilà, le témoignage de Paul est extraordinaire. Galates chapitre 2, verset 20. Voilà, ça c'est l'image d'un homme qui n'a pas imité le Christ, mais qui a laissé le Christ habiter en lui. Vous avez compris tout ce que je voulais vous dire? Cherchez à imiter. Il y a des gens, je vous dis, ils ne sont pas convertis, ils arrivent à imiter des vrais chrétiens. Mais le problème, il n'est pas dans l'imitation. Le problème, il est dans une nouveauté de vie. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Voilà en vérité ce que Dieu veut, c'est que Christ vive de plus en plus en vous. Il ne veut pas que nous améliorons la chair. Écoutez, je suis chrétien depuis 31 ans et je peux vous dire qu'on peut faire plein de choses en améliorant sa personnalité. La Bible parle énormément du combat qu'il y a entre le charnel et le spirituel. Ça serait là aussi l'objet de notre enseignement. Mais Dieu ne veut pas que vous amélioriez votre moi. C'est peut-être compliqué pour certains si vous découvrez l'Évangile. Dieu ne veut pas que nous nous améliorions au niveau de la chair, que nous rafistolions, que nous raccommodions, enfin que nous embellissions le moi. Dieu veut vivre en nous. C'est ça le top niveau. C'est que le Seigneur Jésus puisse vivre au travers de nous. Christ, Paul n'imitait pas le Christ. Christ vivait dans l'apôtre Paul. Et la vie de Jésus-Christ se manifestait tout naturellement au travers de la vie de l'apôtre Paul. Ce n'était pas un combat inépuisable. Il faut... C'est ça la chair. La chair, c'est je me débats tout le temps. Je combats le bon combat de la foi. Je suis crevé. C'est pas ça. Le bon combat de la foi, c'est pas ça. Non, mais beaucoup de chrétiens sont là. Je vous le dis avec un peu d'humour parce qu'on va passer 3 jours ensemble. Et ce n'est pas interdit de faire un peu d'humour à partir du moment où ça gêne personne. Mais c'est pas ça la vie spirituelle. Moi, je vous assure, j'ai compris ça au bout de 13 ans de ministère. 13 ans de ministère, je comprends vite. Venez à moi, mon joug est doux et mon fardeau léger. Et sérieusement, je ne le vivais pas. Je savais que c'était vrai, je n'avais pas de problème, mais je ne le vivais plus. Et il y a tellement longtemps que je ne le vivais plus que j'avais l'impression que je ne l'avais jamais vécu. Et c'est vrai. Et il a fallu que je réfléchisse à pourquoi Dieu permettait l'adversité dans ma vie, parce que ça, franchement, ça allait mal. Je savais que Dieu était dans l'affaire, mais je ne comprenais pas trop. Moi, je lui disais, arrête l'adversité, et ça empirait. Donc, je voyais bien que Dieu, il ne voulait pas l'arrêter, il voulait que j'apprenne quelque chose. Et ça s'est terminé quelques mois après, parce que j'ai compris que Dieu était dedans. Ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Parce que le diable, s'il avait pu justement faire l'inverse, je crois qu'il l'aurait fait. Donc, le but de Dieu, c'est qu'il vive en nous. C'est le top niveau. Et ça, c'est pas un effort. On fait des efforts, mais je crois que c'est vraiment la grâce de Dieu. On vit l'Évangile. On le vit. Vous prenez compte de la grâce de Dieu? On ne fait pas des efforts pour plaire à Dieu ou pour changer. On fait tout simplement des efforts pour faire confiance à Dieu. C'est pas du tout la même chose. C'est l'image de Jean chapitre 15. Vous êtes les sarments, je suis le cep, si vous demeurez à moi, et la vie coule. Donc est-ce qu'un sarment, il réfléchit vachement à comment la sève du sol va venir dans les pépins, etc. Non, ça se fait tout seul. Parce qu'il est greffé, donc au cep. Et c'est ça le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sérieux, sincères, cherchent à plaire à Dieu. Alors, ils empilent les œuvres. Et pourtant, les œuvres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte. Un chrétien qui ne fait rien pour Dieu, c'est révélateur qu'il n'y a plus de communion avec Dieu. Si vous faites rien pour Dieu, au nom de la foi, vous êtes en danger. Vraiment en danger. Mais il y en a qui font des œuvres pour faire des œuvres. Et ils le font pour plaire à Dieu. Et comme je le disais, ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres qu'on se rapproche de Dieu. Ils ajoutent des heures et des heures de prière. Est-ce que c'est bien de prier? Est-ce que vous aimez prier? Bon, il faut prier de toute façon. Alors. Que vous aimiez ou que vous n'aimez pas, ça ne change rien, priez. Voilà, ce n'est pas une question d'émotion, priez quand même. Bon. Mais déjà, ils prient. Ils s'imaginent que plus ils prieront, plus Dieu sera avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils vont jeûner, ils vont prier. Ils vont dire, voilà, moi je jeûne et je prie. Je me mets Dieu avec moi. Mais certes, je le présente à ma façon, je sais. Mais quand même, c'est vrai. Ce n'est pas parce que vous avez jeûné que Dieu est obligé de vous exaucer. Sinon, le jeûne deviendrait une œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les chrétiens, ils en sont là. Il faut jeûner. Moi, je crois que quand on l'a cœur, on jeûne, c'est pas la peine qu'on nous mette de la pression. Ce qu'on fait, il faut le faire de tout son cœur. Mais tout ça pour vous dire qu'on essaie de changer en empilant certaines choses, en assistant à tous les séminaires qui existent. Est-ce que c'est bien d'aller à un séminaire? Est-ce que c'est bien? Mais c'est pas parce que je vais aller à un séminaire que je vais changer. Même si mon intellect est rempli de vérités importantes. C'est pas pour ça que je vais changer. Il faut que vous compreniez ces choses. Déjà, que Dieu va permettre l'adversité, parce que je n'ai peut-être pas compris exactement ce qu'était vraiment la justice, le royaume de Dieu et sa justice. Donc Dieu, qui sait où vous en êtes, est-ce que vous savez où vous en êtes? Oui? Est-ce que vous êtes sûr que vous savez où vous en êtes? Est-ce que vous êtes sûr de bien vous connaître? Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire « Ah, je ne pensais pas dire ça un jour ». Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une réaction ou de juger quelqu'un qui avait eu telle attitude, tel comportement, et puis de faire la même chose quelques jours après? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, je me souviens un jour, j'avais critiqué un pasteur, j'étais avec ma femme, et je dis « Mais franchement, pour un pasteur, ça la fout mal, vraiment. » 3 jours après, j'ai fait exactement la même chose. Quelle honte! Quelle honte! C'est bien la preuve que nous ne nous connaissons pas si bien que ça. Mais Dieu, lui, par contre, il nous connaît très bien. Et il sait ce qu'il faut pour nous changer. Et voyez, je vais vous parler de la croix. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Moi, j'ai entendu tout ce qu'on pouvait entendre, je crois, sur la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est où la première fois où Jésus en parle? Dans Matthieu, chapitre 16, regardez. Regardez bien ça. Je vous donne ces éléments pour que vous compreniez certaines choses. Que nous, on a une notion de la religion, comme le gars dans le temple qui priait, qui pensait que Dieu était avec lui, parce qu'il faisait plein de choses. Mais Christ n'était pas en lui. Dans Matthieu, au chapitre 16, regardez bien. Vous avez votre Bible? Ceux qui n'ont pas leur Bible, vous restez debout jusqu'à la fin de la réunion. Je suis sûr que ce soir, vous aurez votre Bible. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16, verset. Alors, vous savez, il y a eu 2 petites expériences dans la vie de l'apôtre Pierre. Une expérience où Jésus fait un sondage, il dit « Qui dit-on que je suis ?» Alors, les uns répondent de façon différente. Et puis, il dit « Et vous ?» Vous voyez, c'est ça aussi. Ce que les autres pensent, ceux de Jésus, c'est une chose. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Vous voyez? Et Pierre, inspiré, parce que va faire une expérience personnelle, et Jésus va lui dire « Ah, mais c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Comme quoi l'apôtre Pierre, même s'il y avait des réglages à faire, comme on va le voir ce soir ou demain, il est certain qu'il avait déjà une communion avec Dieu, puisqu'il l'avait appris par révélation. Donc Pierre, quand même, dans des moments d'intimité, devait chercher Dieu, et Dieu lui avait révélé que Jésus-Christ n'était pas un prophète, c'était pas un super enseignant, c'était le sauveur du monde. Et Jésus lui dit « Pierre, c'est pas la chair et le sang, mais c'est mon Père, et puisque tu es Pierre, et sur cette pierre, et j'imagine Pierre devant les autres, vous voyez ? Et puis 2 minutes après, ou quelque temps après, une demi-heure après, j'en sais rien, enfin on peut supposer, Jésus va commencer à leur dire, vous savez, voilà, le Fils de l'homme va souffrir, et il va être crucifié, etc., etc. Et Pierre, pensant qu'il devait être toujours inspiré, va dire, ah, Dieu le plaise, cela ne t'arrivera pas. Et là, c'est pas le Père qui s'était révélé. Il va lui dire au verset 23, ça change, vous voyez, ça change parfois vite. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voyez comment on peut vite passer d'un moment spirituel à un moment charnel. Tout ça, c'est indiqué, non pas pour qu'on se moque de Pierre, mais pour que nous comprenions que nous aussi, c'est pas parce qu'on est inspiré maintenant qu'on va l'être dans demi-heure. Mais le problème là, où Jésus dit donc après, alors Jésus dit à ses disciples, donc il saisit cette histoire pour enseigner quelque chose, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le problème que le Seigneur Jésus est en train de soulever, c'est le problème des pensées. Vous êtes d'accord avec moi? Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et il faut apprendre à commencer à renoncer à certaines façons de penser. La croix, c'est ça. Parce que c'est pas parce que vous allez renoncer à certains trucs. Hein. Moi, je renonce au sport. Jésus a dit qu'il fallait renoncer. Je renonce à la couture. Il y a des gens, ils ont renoncé à la richesse, mais ils sont toujours avares. Vous me suivez? Le problème, ce n'est pas la possession ou la non-possession. Le problème, c'est dans les pensées. Et la croix. Parce qu'il y a des gens, ils ont fait des choses. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. On fait les choses pour les faire. On donne la dîme de la ciboulette. Mais les pensées. Est-ce qu'on a appris à mettre nos pensées en accord avec les pensées de Dieu? Le problème, c'était les pensées de Pierre. Parce que Pierre, il avait déjà renoncé à plein de trucs. Puisqu'il avait tout quitté pour suivre Jésus. Et c'est pas parce qu'on va tout quitter qu'on va être obéissant. Mais il y a des choses qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire. Et si c'est dans les pensées, il faut quand même commencer à rendre nos pensées captives. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est important que vous réfléchissiez à la façon dont vous pensez par rapport à la volonté de Dieu. Parce que si vous êtes dans la confusion, Dieu qui le voit, malgré votre sincérité, va dire, cet enfant, il s'engage dans le service et il ne me connaît pas. Et Dieu pourrait dire, moi je veux qu'il me connaisse. Vous vous rappelez pas ce texte où Jésus a dit, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Il parlait de lui. Mais Jésus serait là ce matin, écoutez, je ne veux pas blesser personne. Mais il pourrait dire, mais il y a quelqu'un au milieu de moi qui ne me connaît pas. Combien de chrétiens veulent vraiment connaître Jésus-Christ? Parce que l'adversité, en fin de compte, c'est pour que nous apprenions à découvrir la fidélité de Dieu. Qu'est-ce que je sais de la fidélité de Dieu? Et quand on commence à regarder si nos pensées sont conformes à la volonté de Dieu, je peux vous dire qu'on fait de véritables progrès. Dieu ne doit pas être un serviteur, un moyen d'arriver à nos buts. Je veux être ceci, je veux être un bon pasteur, ou je veux être telle sorte de chrétien. Et voilà, le Seigneur va m'aider. Mais c'est pas ça. C'est, on doit vivre avec le Seigneur. Après, on verra comment les choses évoluent. Il y a des gens qui servent Dieu, moi je le sais. Je discutais ce matin avec une jeune fille de l'église qui me disait qu'un pasteur, qui sera là d'ailleurs demain, a rencontré un serviteur de Dieu, un ex-serviteur de Dieu. Dans une grande surface, il l'a reconnu, il était tout débraillé. Il était avec une copine, puisqu'il venait de divorcer. Il avait une copine, c'était un ancien pasteur. Il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais, Dieu a rien fait pour moi. Pourquoi il le servait? Moi, je ne connais pas cela. Et je serais prêt à l'aider, ça c'est sûr. Pour l'aider à retrouver... Non pas le ministère peut-être, mais au moins l'amour de Jésus-Christ. Mais voyez, de suite, ce qui est sorti de son cœur, mais qu'est-ce que Dieu n'a rien fait pour moi. Mais moi je crois que Dieu a déjà fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Je trouve qu'il a payé cher pour qu'on puisse le connaître. Alors après le reste, c'est autre chose. Mais voyez, il servait Dieu pour que Dieu fasse quelque chose. Et ça l'a perdu. Parce que si Pierre n'avait pas réglé son problème de pensée, on le verra ce soir, il se serait perdu. Il a fallu que Dieu provoque de l'adversité pour qu'il règle un problème de pensée. Vous savez, quand il a dit, les autres ils te renieront, mais moi tu parles. Et ouais, encore, il y avait une pensée qui avait besoin d'être corrigée. Et Dieu sait comment faire. Et si vous saisissez ces choses, si vous les analysez, parce que là je vous les présente, mais il va falloir que vous les méditiez si vous êtes intéressé par la croissance spirituelle. Vous apprendrez à faire confiance à Dieu. Et en vérité, c'est ce que vous appreniez. Que Dieu veut que vous lui fassiez entièrement confiance. Dieu est-il digne de confiance? Voilà, ça c'est une question. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Dieu? Et le connaître devrait nous suffire. Vu les buts qu'on a lus tout à l'heure dans les trois textes, on pourrait se dire, voilà, moi maintenant, mon objectif, puisque je suis en train de me recaler, que j'apprenne à le connaître. Est-ce que vous êtes satisfait de votre communion avec Dieu? Est-ce que vous voulez le connaître davantage? Le connaître davantage? C'est ça, c'est ce que Dieu veut. La connaître Dieu, ce n'est pas de la théologie. Connaître Dieu, c'est une expérience. C'est pour ça que Dieu ne s'intéresse pas à l'amélioration du moi. Dieu veut que nous crucifions notre moi. C'est ce que Paul explique, et peut-être ça va être justement ses pensées, qui n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qui est le plus important? À la suite de ce que vous venez d'entendre maintenant, qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Le confort? Le bonheur? Tiens, le bonheur. Le bonheur, c'est quoi le bonheur? C'est David, un jour dans le psaume 4, qui se fait le porte-parole de plusieurs, pardon, et qui dit, qui nous fera voir le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Je serais curieux que vous m'écriviez ça sur un papier tous. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Là, j'attends que vous répondiez. C'est quoi le bonheur? Est-ce que la Bible parle du bonheur? De quatre façons. Vous permettez une digression? Je pars de l'épreuve dans le bonheur. Il y a quatre textes dans la Bible qui indiquent comment être heureux. Voilà. Quatre. Je vous les résume parce que je pense que c'est important pour quelqu'un. Premièrement, la foi. Heureux l'homme qui se confie en Dieu. Ça n'a rien à voir avec la prière. La confiance et la prière, ça devrait être jumelé, mais ce n'est pas parce qu'on prie qu'on se confie en Dieu. Mais la foi est une, véritablement une source de bonheur. La foi, mais la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Me suivez? Parce qu'à quoi servirait la foi s'il n'y avait pas la grâce? David, il a tué Goliath. D'accord? Il avait la foi pour tuer Goliath. Oui? Mais je pense quand même qu'il y avait la grâce de Dieu aussi. Pour qu'il reste humble après la victoire. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est aussi une grâce de Dieu? Donc la foi sans la grâce. Et s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas être heureux. Une vraie foi. S'il n'y a pas la grâce, il faut ces quatre piliers. S'il n'y a pas la grâce, on ne peut pas être heureux. Troisièmement, dans le psaume 25, on le lit celui-là. Je sens dans mon esprit que quelqu'un a besoin de savoir comment être heureux. Parce qu'on n'est pas heureux parce qu'on prospère matériellement. C'est bien, on apprécie, on n'est pas malade. On apprécie la prospérité. Mais on est heureux, regardez par exemple. Psaume 25, verset 12. Le troisième pilier, ça serait l'objet de toute une méditation. Bien sûr, je le résume, parce que c'est important, parce que plusieurs personnes veulent être heureuses. Et vous avez raison, et vous devez savoir comment. Donc, la foi, un grand sujet, la grâce, un autre immense sujet. Troisième pilier, psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Un homme qui craint Dieu, qui a le respect de Dieu, la crainte de Dieu, par exemple, c'est la haine du mal, entre autres. Son âme reposera dans le bonheur. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas heureux? Parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Peut-être pendant le culte, pendant leur culte. Mais la crainte de Dieu, c'est un état d'esprit que l'on a continuellement. Et Dieu donne les réponses. Qui nous fera avoir le bonheur? Eh bien, l'homme qui a la crainte de Dieu. Son âme reposera dans le bonheur. Et un peu plus loin, c'est dans le psaume 65, il y a le quatrième pilier. Psaume 65, verset 5, quelque chose que nous pouvons vivre maintenant. Psaume 65, verset 5, « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Le bonheur d'être dans la maison du Seigneur et de le servir dans cet état d'esprit que je viens de développer, vivre la vérité. Voyez ? Le bonheur, le vrai bonheur, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qu'est la foi, la confiance, il faut comprendre ce qu'est la grâce. On chante des trucs sur la grâce, mais les gens, moi je leur dis, mais c'est quoi pour vous la grâce? Ah, mais c'est... Alors ils cherchent dans le dico, c'est une faveur imméritée, c'est ce que le pasteur a dit. Mais ça s'arrête là, et ça devrait être là. Et c'est pour ça que Dieu sait que si nous cherchons le bonheur ailleurs, il va orienter la donne, il va permettre des trucs qui ne nous conviennent pas pour nous apprendre vraiment ce qu'est le bonheur. Et comme je le disais hier soir, j'y reviens parce que je n'ai pas fini la pensée hier soir, que je voulais terminer. Nous, quand on est dans l'épreuve, on regarde l'épreuve. Regardez dans Ésaïe 22. Hier soir, je voulais partager ce verset, je l'avais sur mon cœur, il m'est revenu quand je me suis préparé ce matin. Dans Ésaïe 22, le Seigneur est en train de leur expliquer quelque chose. Il ne voit pas un truc. Et c'est ce qui se passe souvent. On ne voit pas ce qu'on devrait voir et on voit ce qu'on ne devrait pas voir. Regardez, Ésaïe 22, c'est la fin du verset qui nous intéresse, la deuxième phrase du verset 11. Regardez bien. Mais vous y êtes? Vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Dieu est en train de leur dire, mais vous ne regardez pas celui, en parlant de lui, vous ne me voyez pas à moi. Vous regardez les choses qui vous irritent. Ça vous irrite, cette épreuve que vous traversez? Voilà, vous regardez les choses qui vous barrent le chemin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui quand Jésus a dit, mais quand vous verrez ces choses, car il faut que ces choses arrivent, votre délivrance approche. Et nous, on voit les choses. Je suis dans l'épreuve, je vois l'épreuve. C'est l'épreuve qui m'énerve. C'est vrai ou c'est pas vrai? Seigneur, arrête l'épreuve. Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, arrête l'épreuve. T'as la foi? Ah ouais. Eh bien, prie pour que Dieu arrête l'épreuve. Si t'as la foi, Dieu arrêtera l'épreuve. Ah ouais? Oui, mais c'est ça qu'on enseigne. Et faites attention aux bouquins que vous achetez sur la grande foi. Moi, je l'ai lu, ça. Moi, je fais attention à la lecture. Et je conseille aux gens de bien connaître la Bible, c'est relatif, avant de lire certains livres. Mais si tu avais la foi, tu sortirais de l'épreuve. Regarde les amis de Daniel dans la fosse aux lions. T'as vu ça, la foi? Ouais. Moi, je lis aussi dans Hébreux 11 qu'il y en a beaucoup plus qui ont été mangés par les lions que qui sont sortis des fosses. Et voyez, on met les gens dans la confusion, ce sont des fausses doctrines. Et la foi, c'est pas « je sors de l'épreuve par la foi au nom de Jésus ». Oh, quelle prière! Vous croyez que c'est comme ça? Quand l'apôtre Paul a eu les chardes dans la chair, il a prié 3 fois, et certainement il a prié avec insistance. Est-ce qu'il a dit « Seigneur, je sors de cette écharde » par la foi? Est-ce qu'il avait la foi, l'apôtre Paul? Et Dieu ne lui a pas dit « Ah, ben je t'exauce ». Dieu lui a dit « l'écharde, tu la gardes ? Je vais te soutenir dans l'épreuve. Et on va faire comme ça. » C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que Dieu aurait pu enlever l'écharde? Oui, mais Dieu, connaissant le potentiel de l'apôtre Paul, avait tout intérêt à tout faire en sorte que l'apôtre Paul ne s'enorgueillisse pas. Parce qu'il le dit quand même, pour t'empêcher de t'enorgueillir. Parce que le Seigneur, justement, il connaît votre potentiel. Et si vous étiez amené à faire quelques belles expériences, parce que l'apôtre Paul, quand même, bon, il a évangélisé presque tout l'Empire romain, il a bouleversé l'Asie romaine, et il a ouvert des églises partout, il a formé des pasteurs partout. Bon, c'est quand même quelqu'un qui avait du potentiel. Et je pense que c'était important pour Dieu. Il a écrit les 1/3 du Nouveau Testament, c'est quand même pas mal. Je pense que c'était bien qu'il s'enorgueillissait pas. Et il n'a pas dit, voilà, mais c'est ça le chrétien, mais tu vas sortir de l'épreuve, tu verras. Mais qui a dit que Dieu a-t-il dit qu'il ferait ce que nous lui demanderions dans l'épreuve? Dieu a dit qu'il nous soutiendrait dans l'épreuve, qu'il serait là pour nous aider, pour nous secourir, mais il n'a pas dit qu'il allait nous faire sortir immédiatement de l'épreuve par une prière de foi. Paul a prié 3 fois, parce que c'était grave, parce que c'était important, parce que pour lui ça le paralysait, et quand Dieu lui dit « ma grâce te suffit », vous avez vu ce qu'il ajoute? Est-ce que quelqu'un peut me dire, parce que c'est quand même des versets clés ça, est-ce que quelqu'un peut dire ce que Paul dit une fois que Dieu lui a dit « ma grâce te suffit ». Dis pas « ma grâce te suffira ». C'est au présent. La vie avec Dieu, c'est le présent. Si Dieu vous parle, c'est pour maintenant. C'est important. « Ma grâce te suffit ». Ça veut dire que maintenant, je suis avec toi. Non, l'écharde, tu la garderas toute ta vie. Mais je serai avec toi. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que ça valait la peine? Regardez le résultat. On a parlé. Il faut que l'épreuve de votre foi ait pour résultat. Quel est le résultat? Parce que, en fin de compte, l'épreuve pour l'épreuve, c'est rien. Ça veut rien dire, l'épreuve. Mais quel est le résultat de chaque épreuve que je traverse? Il y a des gens, ils sortent aigris, je ne comprends pas. Vous voyez, ce pasteur qui a tout abandonné, qui a divorcé, qui s'est pris une copine, Dieu n'a rien fait pour moi. Il a servi Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Alors, c'est dans 2 Corinthiens. Deux Corinthiens 12, verset 8. Trois fois, vous voyez le but, verset 7. On va lire pour ceux qui ne sont pas familiarisés. 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Tout ça c'est résumé, combien de temps ça a duré. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Regardez bien, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le verset 10, ça peut vous faire réfléchir. C'est pourquoi c'est le grand apôtre Paul qui parle. L'homme de Dieu hors pair, qui a certainement pu faire ce qu'il a fait parce qu'il a vécu ce qu'on va lire. C'est pourquoi, et c'était pas une blague, je me plais dans les faiblesses. À méditer. Je me plais dans les outrages. Je me plais dans les calamités. Je me plais dans les persécutions. Je me plais dans les... Qu'est-ce que vous avez écrit ? Détresse. Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous avouerez que ça fait réfléchir. Le résultat de l'épreuve, c'est que Dieu a dit, écoute Paul, tu es quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire pour mon royaume. Mais avec toutes ces révélations, quand vous lisez le début du chapitre, il a été ravi au paradis. C'est pas mal. Il a été ravi au paradis. Il a été dans le paradis. Et entre autres, ce qu'il a vu dans le paradis, il est dit que Dieu ne permet pas que ça puisse être exprimé. Dans toutes les pseudo-révélations des gens qui ont été au paradis et qui ont vu des trucs, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui Dieu donnerait l'autorisation alors qu'il ne l'a pas donné à l'époque. Et comme il ne faut rien rajouter, qu'il ne faut rien retrancher, ça c'est une parenthèse. Mais Dieu dit, écoute, moi je suis puissant, toi je veux que tu restes faible. Et on va travailler comme ça. Est-ce que ça valait la peine ? Est-ce que ça valait la peine ? Parce que vous avez peut-être une idée du courage, pour prendre un qualificatif d'un responsable, que ce n'est pas d'avoir peur. Non. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, j'ai peur, mais Dieu est avec moi. Et je domine ma peur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que Paul était un homme courageux ? Oui. Et pourtant, quand il dit, voilà, j'étais auprès de vous, dans la détresse, dans les tremblements, dans la crainte. Voyez ? Il était courageux. C'est ce que je disais hier soir à quelqu'un, il faut que vous vous appreniez à vous décider. Ce séminaire n'aura aucun résultat, mis à part une connaissance théologique plus grande, si vous ne vous décidez pas à dire « je me corrige dans ce domaine » parce que là quand même Dieu m'a interpellé. De toute façon, si Dieu a besoin de vous, il le fera de lui-même. Ce n'est pas la peine de lui demander l'épreuve, il le fera de lui-même. Ça c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il vous aidera. Mais voyez, il faut comprendre les choses. L'adversité, c'est un sujet absolument important. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, quand Jésus dit, dès que survient une tribulation à cause de la parole, qu'est-ce qu'il est écrit ? Ils y trouvent une occasion de chute. Dès que survient une tribulation, ils n'ont pas compris que la vie est quand même un vrai combat. Et que quand on se convertit, il y a des choses que Dieu veut changer, il y a des choses que Dieu veut que nous apprenions, il y a des choses qu'il faut saisir. Et les chrétiens, ils n'acceptent pas. C'est parce que, ils ont accepté Dieu pour la bénédiction, et non pas pour sa volonté. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens décrochent, ils n'acceptent pas l'épreuve. Pourquoi ça ? Qu'est-ce que Dieu fait contre moi ? Dieu ne fait pas les choses contre vous. Dieu fait les choses pour vous. Bien sûr que sur le moment, on ne le comprend pas. On a l'impression que Dieu travaille contre nous. Quand Dieu fait quelque chose, il fait quelque chose pour notre bien. On le voit après. Quand Jacob a combattu, je parlais d'Abraham qui a été béni, il a été béni matériellement. L'apôtre Jacob, quand il va lutter toute une nuit avec Dieu, toute une nuit, il a lutté. Il a lutté avec Dieu. À quoi ça servait ? Rien. Au matin, quand même, Dieu a pris l'initiative de lui démettre l'ange. Et c'est après ça qu'il a été victorieux. Parce qu'il ne pouvait plus se battre. Là, c'était cuit. Il ne pouvait plus se battre. Et là, Dieu dit, bon, c'est bon, t'es vainqueur. Il a été béni. Quand vous lisez les textes, il a été béni. Est-ce qu'il n'était pas béni avant Jacob, matériellement? Tiens donc. Est-ce que Jacob avait été béni matériellement? Moi, je trouve que c'était pas mal pour l'époque. Il a été béni. Mais après, il a été béni spirituellement. On pourrait dire cette épreuve, à quoi ça servit? Et pourtant, c'était un homme de foi. Et il n'a pas dit maintenant, tu vois cet ange, Seigneur, bon, c'était bon pour le moment, mais maintenant, guéris-moi! Quand il est mort, il est dit que quand il a béni ses enfants, il était appuyé sur l'extrémité de son bâton. Il a gardé toute sa vie la blessure. On en parlera demain des blessures. On peut sortir sans blessure d'une épreuve, on peut sortir avec des blessures. Et alors, ce qui est important, c'est de rester victorieux, blessure ou pas. Ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre ce qu'on a chanté tout à l'heure, majesté. Il est le roi, il m'aime, il règne. Dieu aimait l'apôtre Paul. Il y en a peut-être qui disaient, vous voyez, quand on dit que se réjouir des épreuves des autres, ah mais il est en tôle l'apôtre Paul. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait avant sa conversion, hein? Il faisait mettre les chrétiens en prison. Eh bien, il y récolte. Hein? Vous croyez que Dieu... Mais je l'ai entendu, ça. Vous croyez que Paul récoltait... Est-ce que Paul récoltait la monnaie de la pièce? Voilà, on a oublié de vous dire, verrouillez les portables. Est-ce que Dieu a mis Paul en prison parce qu'avant sa conversion, il faisait mettre les chrétiens en prison? Il va comprendre. Vous croyez qu'on aurait toutes les épîtres si Paul avait été en prison? Non. Vous croyez que Dieu a voulu blinder l'apôtre Paul? Non. Est-ce que ça valait la peine que Paul soit en prison? L'un tiers de la prédication n'aurait pas eu été ce matin s'il n'y avait pas eu Paul en prison. C'est sûr. Alors peut-être qu'il y a des questions, peut-être que cette prédication soulève plus de questions, surtout pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur. Parce qu'il y en a. Peut-être pas ici, mais en fait, ça m'étonnerait. Hélas, mais je suis sérieux, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas intéressés. Oui, le confort, oui, la bénédiction, et ça, Dieu le donne. J'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé de Jacob, j'ai parlé de ce micro qui commence à m'énerver, sérieusement. Mais comme j'ai fini... J'aimerais vous dire que Dieu vous aime et que tout ce que Dieu permet, tout, peut concourir à votre bien si vous réagissez bien. Et réagir bien, c'est dire, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Laissez Dieu. J'ai dit qu'il était digne de comprendre. Vous ne comprenez pas? Ce n'est pas méchant. Dites, Seigneur, je choisis ce matin de te faire confiance. Peut-être que l'épreuve va perdurer, mais tu seras avec moi. Et je vais apprendre quelque chose qui va vraiment me servir. Je veux vivre ce qu'on a chanté, majesté. Est-ce qu'on pourrait le rechanter? Est-ce qu'on peut se recueillir? Vous voulez bien vous recueillir? Est-ce que vous voulez répondre à cette prédication? Peut-être que vous n'avez pas tout compris. Je ne sais pas ce que vous avez compris de cette prédication. Moi, dans ma tête, c'est tellement, tellement clair. Et je sais que tout ça est cohérent. Peut-être que vous ne comprenez pas l'amélioration du moi, Dieu n'en veut pas, que Christ vive en nous, mais qu'est-ce que c'est? Parce que vous n'avez pas été soucieux de connaître ces choses. Mais c'est ça que Dieu veut. Pas des gens qui le servent, des gens qui le connaissent. J'aimerais qu'on chante ce cantique. Vous pouvez venir les musiciens, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on le chante pas avec la tête, qu'on le chante avec le cœur. Il est notre Dieu. Il le sait. Il aimait l'apôtre Paul. Il aimait Jacob. Il aimait Abraham. Il aimait Jonas. Mais il aimait peut-être encore plus les Ninivites. Il voulait sauver tout le monde. Dieu ne se trompe jamais, rappelez-vous-en. Vous, vous vous trompez. Nous, nous trompons. Dieu ne se trompe jamais. On peut se lever pour chanter ce cantique? J'aimerais que vous le présentiez à Jésus. Il est sur son trône. Il vous voit. Il est couronné de gloire et d'honneur. Il règne. Rien ne l'inquiète. Il règne. Et il pourrait régner sur votre vie si vous lui faisiez entièrement confiance.